Chapitre 17. Mon vicariat à Saint-Roch de Québec. Au mois de septembre 1834, je fus nommé vicaire de Saint-Roch de Québec avec les abbés Baillargeon, Louis Parent et Siméon Bellot. M. David Tétu était curé de cette importante paroisse. Une des premières choses qu'il fit, après l'installation de ses nouveaux vicaires, fut de diviser sa grande paroisse en quatre parties, afin qu'il y eût plus de régularité dans notre ministère. Ce partage se fit au sort et me donna la partie nord-est, qui comprenait l'hôpital de la marine. Le nombre ordinaire des marins malades que je visitais, presque tous les jours, variait de 25 à 100. La chapelle catholique, avec son bel hôtel, n'était pas encore prête. Ce ne fut qu'en 1836 que je pus déterminer les autorités de l'hôpital à l'achever telle qu'elle est aujourd'hui. Comme il n'y avait pas d'endroit spécial pour y dire la messe et y garder le Saint-Sacrement, je me trouvais bientôt en face d'une difficulté qui d'abord me parut très grave. Il s'agissait d'administrer le Saint-Viatique à un matelot qui se mourait. Jusque-là, en portant le bon Dieu aux malades, soit à Saint-Charles, soit à Charlebourg, j'avais toujours déployé, à l'exemple des prêtres catholiques, beaucoup de pompe et toutes les marques extérieures d'un souverain respect pour le Dieu tout-puissant et miséricordieux que je croyais tenir dans mes mains. Je ne l'avais jamais porté sans être accompagné de plusieurs personnes, à pied ou à cheval. Pour frapper le peuple de respect, je portais par-dessus ma longue soutane un grand surplis blanc. Un homme me précédait, sonnant une clochette tout le long du chemin, afin de prévenir les gens que le grand Dieu, qui non seulement avait créé le ciel et la terre, mais qui s'était fait homme pour nous sauver par sa mort, passait en personne et que, soit dans leur maison, soit le long des chemins publics, soit dans leurs champs, ils devaient se jeter à genoux et se prosterner, la face contre terre, pour l'adorer. Mais pouvais-je en agir de même à Québec, où tant de misérables hérétiques étaient bien plutôt disposés à rire de mon Dieu qu'à l'adorer? Toutefois, dans mon zèle et dans ma foi sincère, j'étais bien déterminé à braver les hérétiques du monde entier et à m'exposer à leurs insultes, plutôt que de renoncer aux marques de respect et d'adoration que je croyais partout dues à mon Dieu. Et deux fois je portais ce Dieu à l'hôpital avec la solennité ordinaire. En vain, mon curé essaya de me persuader d'en agir autrement. Je fermai l'oreille à ses avis. Il m'invita alors à aller avec lui au palais épiscopal afin de conférer avec sa grandeur sur ce grave sujet. Comment exprimer ma surprise lorsque l'évêque, avec une légèreté que je n'avais jamais observée en lui, me dit que, à cause des protestants qu'on rencontrait partout dans les rues de Québec, il était préférable d'y faire voyager le bon Dieu incognito. Il ajouta sur un ton badin, « Mettez le bon Dieu dans les poches de votre gilet, comme font les autres prêtres de la ville, et portez-le ainsi, sans aucun scrupule, à vos mourants. Ne prétendez jamais devenir un réformateur et faire mieux que le reste de vos vénérables frères dans la prêtrise. » « Mais, répondis-je, lorsque je marcherai dans les rues avec le bon Dieu dans ma poche, que devrais-je faire si je rencontre un ami qui veuille échanger avec moi une poignée de main ?» L'évêque se mit à rire et répliqua. « Dites à votre ami que vous êtes pressé et continuez votre chemin aussi vite que possible. Si vous ne pouvez faire autrement, parlez et plaisantez avec lui sans aucun scrupule de conscience. Le seul point important dans toute cette délicate matière, c'est que le peuple sache le moins possible que nous portons notre bon Dieu par les rues, incognito, dans nos vêtements. Le jour où il viendra à trop le savoir, il commencera à mettre en doute que nous avons le pouvoir de changer le pain en Dieu. Le commun du peuple est attaché à notre Sainte Église beaucoup plus que nous ne le pensons, par les imposantes cérémonies de nos processions et par les marques publiques de respect que nous donnons à Jésus-Christ lorsque nous le portons aux malades. Car le peuple est plus facilement persuadé par ce qu'il voit de ses yeux ou touche de ses mains que par ce qu'il entend de ses oreilles. Je me soumis à l'ordre de mon supérieur ecclésiastique. Mais je manquerais d'honnêteté si je n'avouais pas que, pendant quelque temps, je perdis beaucoup de mes jouissances spirituelles dans l'administration du viatique. Je continuais à croire aussi sincèrement que je le pouvais. Mais les paroles moqueuses et le ton léger de mon évêque étaient tombés sur mon âme comme un brouillard glacé. La manière frivole dont il avait parlé de ce qu'on m'avait appris à considérer comme le plus vénérable et le plus redoutable mystère de notre sainte religion laissa dans mon esprit l'impression qu'il ne croyait pas lui-même un iota du dogme de la transsubstantiation. Et, en dépit de tous mes efforts pour me débarrasser de ses soupçons, il se présentait à ma pensée et poussait de plus profondes racines chaque fois que j'abordais l'évêque pour lui parler sur quelque sujet du ministère. il se passa plusieurs années avant que je puisse m'habituer à porter, comme faisaient les autres prêtres, mon bon Dieu dans les poches de mon gilet, sans plus de cérémonie que si c'eût été une blague à tabac.